Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, je vais prêter ma voix à un homme qui a connu la plus extrême des douleurs. Une douleur faciale qu'on appelle l'algie vasculaire de la face. Il s'appelle Christophe Taureau et il raconte son histoire dans un livre paru aux éditions Fauve, La vie est un sport individuel. Et il est là, bien sûr. Bonjour Christophe Taureau.
Bonjour Christophe.
On va donc écouter votre histoire, on s'en parle après. C'est une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première fois, la première crise, c'était au bord de la mer, dans le Morbihan. Pendant les vacances en août 1985, j'avais 18 ans. Je me souviens, j'écoutais du Dao dans ma chambre. Sur un jerk électronique, ce nous des amours ludiques. Je n'ai rien vu venir. D'abord une gêne sur le côté droit du crâne, et puis une douleur, oh oui là, une douleur qui gagne du terrain. La voilà derrière l'œil, et puis dans la narine droite, décuplée. Difficile de respirer. Et puis, un voile sur l'œil. Des larmes. Je n'ai jamais ressenti ça. Comme un tournevis qu'on vous rentre dans l'œil. Une fracture ouverte, une amputation sans anesthésie. Une sciatique du ciboulot. Bordel! C'est quoi ce truc? Ça dure comme ça, deux bonnes heures, et après, plus rien. Et à partir de là, je pense à autre chose. J'ai 18 ans, mes parents m'ont offert de faire ma terminale dans un lycée français au Texas, à Austin. Yeah! Trop chic! Ça fait quoi? Un bon mois et demi que je suis devenu texan, et ça revient, et ça ne passe pas inaperçu, il est midi et demi, je suis au self, mon plateau de malbouffe entre les mains, c'est tellement violent que je tombe dans les pommes, et quand j'émerge, il y a trois ou quatre visages penchés sur moi, des types comme échappés d'une série américaine, chemise bleue à épaulettes, les rébans accrochés à la poche, talkie-walkie à la ceinture, c'est la police du campus. Hey, are you okay, man? What happened, man? A terrible headache. That's all. I'm fine now. I just need to sleep. I want to go back to my room. Je leur dis que ça va mieux, que j'ai besoin de dormir, que je veux retourner dans ma chambre. Et donc ils me conduisent en voiture jusqu'à mon bâtiment. Je suis sous le choc. Je suis sonné. Et je fais le lien, bien sûr, avec mon épisode breton. La douleur a de la mémoire. Ça n'est que la deuxième fois, mais sur mon lit, dans ma chambre. Je suis groggy. J'ai fait une crise. Là, je viens de faire une deuxième crise. Et s'il y en avait d'autres? La douleur? Le mal que j'ai eu ces deux fois-là? Il y a forcément quelque chose d'anormal. Et je tremble déjà à l'idée de la prochaine. Des prochaines, en vérité. Une crise. Deux crises. 20 crises tous les jours. L'ennemi se pointe en général en fin de matinée, sur les coups de 11 heures. D'abord une petite pointe derrière l'œil, ou presque rien, une gratouille. Mais je sais que c'est le top départ. Et là, personne ne peut plus rien pour moi. Personne. Donc je m'isole. Je n'ai pas envie qu'on me voie comme ça. Je me recroqueville sur moi-même, la tête qui bouge de haut en bas, à se tirer sur la tignasse. Et parfois, je me tape la tête contre les murs. Et d'autres fois, je fais le poirier, à me foutre le feu dans les bras, pour faire affluer dans mon crâne le maximum de sang, pour diluer la douleur. Il m'arrive aussi d'aller courir, une heure ou deux, ou de prendre mon vélo pour provoquer une accélération cardiaque qui me soulage un peu. Et puis souvent, je prends une douche, glacée. Coup de chance, l'eau des sanitaires de l'université Saint-Édouard est gelée comme celle d'une fontaine. Il n'y a que ça qui peut apaiser la fin de la crise. La pluie gelée sur mon crâne meurtri. J'ai froid, je tremble. Mais la douleur se fait plus douce. Alors je trouve la force de rester sous cette source à 10 degrés. Je suis venu là, aux États-Unis, à Austin, au Texas, pour passer ma terminale, pour passer mon bac. Je vais pas y arriver. Il y a un problème. J'ai épuisé tout ce qui a un rapport avec le headache, le mal de tête au drugstore du coin, le Tylenol, le Nurofen, l'Advil, le CVS, le Walgreen Pain Relief. Ça n'a pas eu plus d'effet que des M&M's. Il faut que je voie quelqu'un, comme on dit. Et là, on est aux États-Unis. Hein. C'est pas simple pour les Américains, alors pour un étranger, dans les années 80, c'est un gymkhana. Par un voisin de chambre dont la mère est médecin, j'obtiens un rendez-vous avec le cador local de la caboche. Professeur à la fac de médecine de l'Université du Texas, grand spécialiste de la migraine. Il paraît que je suis un privilégié. Lui aussi remarquait. Vu l'épaisseur de la moquette de son cabinet et le prix de sa consultation, 100 dollars, 1000 francs de 1985, et tout ça pour 5 minutes. Il ne m'a pas écouté. Un escroc. Et à la fin, il m'a donné un mini cachet de couleur rose en me disant « This is the end of your problem, son. » C'est la fin de tes problèmes, fiston. Un escroc. Aucun effet. Aucun. Ça fait 3 mois. Que je suis à Austin. Et ma vie est devenue impossible. Je manque un cours sur deux, presque tous les jours. J'ai pris du retard. Et mes parents, est-ce qu'ils savent? Je les appelle, bien sûr, comme on appelle à l'époque, une ou deux fois par semaine, en PCV, d'une cabine. Yes? Yes, I want a collect call to France. To France, please. Et en plus, ça coûte une blinde. Et donc ça dure rarement plus de 5 minutes. Ce que comprennent mes parents, je ne sais pas. Je ne veux pas les affoler. Et finalement, c'est le directeur du lycée qui les appelle et qui les convainc que je dois rentrer en France. Et donc je rentre. Là-dessus, en France, ma mère décide de répondre par l'irrationnel, l'acupuncture. Le docteur Laurier, jolie demeure de pierre de taille en Touraine. Il paraît qu'il fait des miracles. Et d'après ce qu'on dit, le roi du Maroc lui-même, Hassan II, vient chez lui se faire planter des aiguilles. Ah oui ! Il me reçoit dans une pièce de sa maison. La salle d'attente est dans le couloir, il y a des odeurs de cuisine. C'est agréable, hein, cette ambiance familiale. Je lui explique mes symptômes, ça ne semble pas l'impressionner. Il pose ses aiguilles. Bien, j'ai travaillé là où le bas blesse. Forcément, le nerf va se rebiffer. Attendez-vous à faire une ou deux crises dans les prochaines heures. Je suis retourné le voir une bonne dizaine de fois. Dans les années d'après. Il n'a jamais vraiment résolu mon problème, mais son calme, son assurance sans prétention, m'ont toujours donné le sentiment, assez rare, et donc précieux, d'être dans de bonnes mains. Quand la douleur ne frappe pas, c'est qu'elle frappera. La puissance de cette pathologie est de hanter ses victimes, parce qu'elle engendre un niveau de souffrance qui confine au supplice. La douleur, quand elle est insupportable, devient la peur. Elle s'immisce. Elle se diffuse dans chaque recoin de mon labyrinthe intérieur. Elle fait partie de moi. Cette peur est gravée comme un fossile dans une pierre millénaire. Après 2 mois de crise, elle m'a bouffé le cerveau. Il y a l'avant-crise, la crise, l'après-crise. Et moi, dans tout ça, il ne me reste que des miettes. À un moment, il faut bien redevenir cartésien et passer par le plus classique, le conventionnel, le rembourser sécu. Et donc rendez-vous chez un ponte de la migraine, le docteur Boltanski, à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Ça commence par un scanner. Écoutez, à l'analyse de l'image, je ne vois rien d'anormal. Mais tout va bien alors. Mais je souffre toujours à crever. Vient ensuite le docteur que j'ai baptisé JST. Je sais tout. Un petit bonhomme aux cheveux gris, un peu voûté, costume de velours, cravate en laine à la Jean d'Ormesson, bourré de certitude et totalement dénué d'empathie, même s'il met un mot sur mon mal. Vous souffrez, monsieur, de ce qu'on appelle une algie vasculaire de la face. J'explique. Une artère que l'on appelle cérébelleuse vient comprimer un nerf que l'on appelle trijumeau, qui se situe là, entre l'œil et les oreilles. Je vais donc vous prescrire de l'avlocardil. C'est du chlorhydrate de propranolol, c'est un bêta-bloquant. Ça va bien vous soulager. Il dit ça avec tellement d'aplomb qu'on a envie de le croire. Mais nib, nada, rien de rien, aucun effet, ou si peu. Mais bon, ça m'a fait un peu de bien au moral, le sentiment d'être épaulé, d'être loin de la solitude des premières semaines de crise. Je rentre au Texas, je passe mon bac. Pendant les examens, pas l'ombre d'une crise, ouf. Et je m'inscris à Sciences Po à Paris. Après les 3 premières années de crise, perdu pour perdu, je décide d'aller voir un psy, un psychanalyste, rue de Rennes, à Paris. Accueil digne d'un équipage de Ryanair. Assez vite, je lui trouve un petit nom, le Mérou, à cause de ses lèvres et surtout du fait qu'il ne prononce pas un mot, ou presque. Alors ?
Alors quoi ?
Alors ?
Vous ne m'expliquez pas comment notre travail va se dérouler ?
Non. C'est votre travail. Alors ?
Je comprends sa démarche, cette façon de me responsabiliser, de m'obliger à prendre les choses en main. Il n'y a que moi qui peux démêler ce sac de nœuds. Mais enfin, j'ai envie d'un peu de dialogue, de conseils, d'une mise en route en douceur, d'une bougie pour guider mes premiers pas. Il m'est arrivé de rester des séances entières sans prononcer un traître mot. Bonjour, au revoir. Tiens, voilà 100 balles. Fumier. J'ai aussi essayé le magnétiseur.
Ah ben tu sais, ils font des miracles parfois.
Moi, je n'ai jamais eu d'appétence pour ces pratiques, disons, parallèles. Je vais le voir chez lui. La quarantaine, pull col roulé, pantalon en velours côtelé, des méphistos neufs aux pieds, un petit cabinet dans le garage de son pavillon, froid, lumière jaunâtre. Pourriez-vous me raconter, en détaillant avec précision, ce qui vous paraît problématique dans votre vie? L'enfance, les sources de conflits, les regrets, les accidents. Je n'avais rien à perdre. J'ai parlé, une bonne heure. Il ne m'a jamais relancé, jamais demandé une précision. En vérité, il n'en avait rien à faire.
Bien. Je me suis connecté avec vous, monsieur. Il me semble y avoir un problème avec votre appareil digestif, hein. C'est le nerf de la guerre, hein, la digestion, c'est le moteur, c'est, si ça cafouille, c'est comme une voiture, hein, vous n'allez pas très loin.
Il a raison. J'ai déjà fait le lien entre mon ventre et mes douleurs. Mais est-ce que c'est la tension électrique de mes douleurs qui me colle des nœuds de chaise à l'estomac, ou est-ce que c'est l'inverse?
En tout cas, pendant votre récit, j'ai fait le ménage. Ça va mieux circuler là-dedans.
Autrement dit, sans me manipuler, par la seule force de ses ondes, il a nettoyé le carburateur. En pratique, ça n'a pas changé grand-chose. Quand j'ai une crise, je cherche des voies de délestage, une diversion. Je m'accroche à n'importe quoi, à autre chose. Tiens, c'est dommage que Pif Gadget ait disparu. C'était bien les gadgets. Où il est, mon vélo orange de chez Manu France que j'aimais tant? Quoi? Claudia Cardinal serait avec Jacques Chirac? Sans déconner. N'importe quoi, pourvu que je pense à autre chose, à des choses futiles, en total décalage avec ma souffrance. Ou alors, je regarde des séries débiles sur la 5. Voisin, voisine, tendresse et passion. Le vertige du vide fait un chouïa diversion avec ma douleur. Et puis il y a le sexe aussi. Je me demande si ça n'est pas l'arme fatale anti-algie. Baiser comme un animal, sans retenue. Et là, ton sang, qui file à toute allure dans tes artères, refoule cette putain de douleur comme le mistral chasse les nuages. Bon, la limite, c'est qu'il faut une crise et une fille, en même temps. Et puis moralement, ça me pose un problème. Je ne peux pas dire à ma petite amie, il faut s'allonger là tout de suite, j'ai une migraine, la réduire à une poupée gonflable. À un moment, je me suis demandé s'il ne fallait pas carrément aller aux putes. Sauf que mettons que je l'appelle, combien de temps va-t-elle mettre à arriver? Et puis en pleine crise, elle va me prendre pour un désaxé échappé de Sainte-Anne. En 1991, ça fait 6 ans que je souffre. Et je couvre comme journaliste la finale de Roland-Garros, Agassi face à Jim Courier, pour BFM Radio et Tennis Magazine. Je dois intervenir toutes les demi-heures pour faire un point sur le score. L'angoisse. Comment est-ce que je vais faire si je commence à déguster juste avant d'intervenir? Pourvu que mon trijumeau soit au repos ce dimanche. Je l'ai fait. Courier a gagné. Et moi, j'ai tenu. Ça a duré 20 ans, cette vie. Cette vie avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai rendez-vous avec le docteur Lechat, neurologue. La trentaine, une voix un peu haut-perchée, et surtout de l'attention dans le regard. Après 2 décennies à en baver des ronds de chapeau, elle est la première qui montre une vraie compassion. Et cette empathie, c'est tout con, hein? Mais ça fait un bien fou. Quand j'entre dans son bureau, je ne sais pas qu'elle va changer ma vie.
Et le sumatriptan, on ne vous l'a jamais proposé?
Le quoi?
Le sumatriptan, c'est une injection pour tous ceux qui n'y sont pas allergiques. C'est d'une efficacité assez formidable, hein, Vous faites l'injection vous-même en intramusculaire avec un injecteur automatique équipé d'une aiguille très fine. C'est très facile, hein, il faut juste appuyer sur le bouton. C'est nouveau ? Oh non, enfin, c'est pas très vieux non plus. 6 ou 7 ans.
Les bras m'en tombent. Ça fait peut-être 6 ans que ce machin existe et que je passe à côté de la solution. Alors j'ai ma part de responsabilité. À un moment, j'ai baissé les bras. J'ai déposé les armes au pied de l'ennemi.
Je vous fais une ordonnance ? On tente le coup ?
Allons-y, oui. De toute façon, au point où j'en suis. Elle sort une feuille de maladie d'une couleur que je ne connaissais pas, gris-bleu.
Ah oui, c'est une ordonnance d'exception. Pour des médicaments à part, je ne suis pas en train de vous prescrire de l'aspirine.
Je n'oublierai jamais l'air catastrophé du pharmacien à qui je tends mon ordonnance. Il la lit, il la relit, il lève lentement le visage.
Venez, venez, on va se mettre sur la caisse complètement à droite, là, on sera plus tranquille.
Bon, déjà, pour commencer, sachez que je l'ai en stock, ce qui n'est pas toujours le cas. Les clients sont rares, c'est un médicament très cher, comme vous le savez sans doute.
Ah non ? Non, c'est quoi, cher ?
45 euros l'injection. Je vais vous en donner 2 boîtes, ça fait 4 injections.
Ah bon ? Mais je peux avoir mal quasiment tous les jours, je vais pas aller loin avec ça.
Attendez, voyons si vous n'êtes pas allergique. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde, croyez-moi. Et surtout, vous laissez 6 heures entre chaque prise. C'est un produit qui secoue. Vraiment.
En ce dimanche matin, ça fait 3 ou 4 minutes que ça commence à gratouiller à droite de l'occiput. Est-ce que j'ai peur de ce qui va suivre ? Oui, forcément. Hier, j'ai déplié et retourné la notice dans tous les sens et j'ai découvert ce drôle de machin qui pourrait devenir le compagnon de mon quotidien. 2 petits cylindres bleus de 4 cm de hauteur. Pour se piquer, il faut se retirer du monde. Instinctivement, je choisis les toilettes. Je me retrouve sur la cuvette, le falzar en accordéon sur les chevilles. Je visse le cylindre sur l'injecteur, un gros stylo de la taille d'un Bic 4 couleurs, et clac ! J'ai rien senti. Oh zut, je saigne ! Je colmate avec du papier toilette. Quelques secondes après, je sens des picotements dans le haut du dos, comme si des milliers de fourmis se mettaient à courir à l'intérieur de moi. Le mâle se débat, il tente une échappée vers la droite, il refuse de capituler, ce bâtard. Et ça marche ! En moins d'un quart d'heure, toute trace de douleur a disparu, et je n'ai aucun effet indésirable. C'est un choc presque aussi grand que celui de ma première crise. Je crois bien que j'ai trouvé la solution vers une nouvelle liberté. Je redeviens le maître du jeu.
Voilà donc pour cette histoire que vous avez écoutée et qui est essentiellement écrite avec vos propres mots. Je vous ai juste fait un sale coup, vous l'avez écrit au tu, comme quelqu'un qui ne voulait pas non plus totalement sans doute se livrer ou livrer toute son intimité, et moi je l'ai passé au jeu.
C'est vrai que ça a été une... C'est marrant que vous abordiez ce sujet, Christophe, parce que ça a été un vrai sujet de discussion avec le premier éditeur avec lequel j'avais travaillé. Je lui avais envoyé une première partie avec le tu. Il m'a dit « Je ne sens pas l'affaire. Refais-le avec le jeu. » Ce que j'ai fait.
Oui.
Et puis finalement, je ne le sentais pas. Donc je suis revenu au tu et finalement, ça me plaît mieux parce qu'effectivement, il y a une certaine notion de distance. Et en même temps, je trouvais que c'était le moyen pour que le lecteur se mettent à ma place.
Alors, ce médicament, le sumatriptan, est-ce qu'il vous a soulagé dans les années qui ont suivi ? Est-ce que ça a duré ?
Ah, complètement. Complètement, ça a changé ma vie. À savoir que à chacune des crises, si effectivement j'avais bien mon Imiject, le produit fini s'appelle l'Imiject, avec moi, et que j'avais surtout l'occasion de pouvoir aller faire ma piqûre, effectivement, dans les 10 minutes, un quart d'heure, la crise était...
Ça a marché à chaque fois, il n'y a pas eu d'échec.
Si, il y a eu 2-3 échecs, mais franchement, c'était complètement autre chose de savoir que je pouvais arrêter les crises quasiment quand je le voulais. Alors, après, l'angoisse était de se retrouver dans les conditions qui permettent de pouvoir faire une piqûre, parce que parfois, on est un petit peu coincé, je ne sais pas, on peut être, je sais pas, dans un bus, et on ne peut pas. Et on se dit, zide, il faut que je trouve le moyen d'aller faire cette piqûre.
On ne peut pas le faire à travers le pantalon, quoi.
Alors si, a priori, oui, j'ai jamais tenté le truc, parce que j'avais aussi le côté de me dire, ça coûte 50 euros chaque injection,
je
vais quand même pas en gâcher. Oui, parce qu'à l'origine, ce type de piqûre était pour l'armée américaine. Pour les GI, pendant la guerre du Koweït, s'ils sentaient qu'il y avait des gaz chimiques, etc., ils pouvaient se faire une injection à travers le pantalon.
Pour affronter la douleur. Aujourd'hui, les douleurs ont totalement disparu. C'est ainsi que se termine votre livre. Ouais. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Je ne sais pas pourquoi c'est parti. Tout ce que m'a dit le docteur Deschiens, c'est son vrai nom, il ne s'appelle pas Le Chat.
Ah ben j'allais vous demander son vrai nom parce que...
Voilà, elle est dans les remerciements.
Donc elle s'appelle Deschiens et pas Le Chat. Oui, ça vous amusait de l'appeler Le Chat parce que ça la rendait féline.
Elle n'est pas très loin des studios d'Europe 1.
Elle est à Pompidou donc.
Non, elle est à Boulogne.
À Boulogne. Non, c'est important parce que je veux dire, des tas de gens souffrent de votre mal.
Absolument.
Et sans doute voudront-ils connaître le nom de celle qui vous a sauvé.
Absolument, c'était complètement par hasard. Mais pour revenir à la disparition des douleurs, elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit qu'elle avait eu un cas d'un autre patient et entre 40 et 50 ans, les douleurs avaient disparu, ce qui a été mon cas, et qu'un petit mouvement morphologique du fait qu'on vieillisse, peut-être, fait qu'aujourd'hui, moi, mon nerf trijumeau, qui est le nerf qui provoque l'algie vasculaire de la face, eh bien, est peut-être un petit peu plus solitaire dans ma tête et même si j'ai des émotions, même si j'ai des accélérations, on ne vient plus taper dessus. A priori, j'imagine que c'est ça, mais je n'ai absolument pas la solution complète.
Alors vous racontez ensuite quelque chose d'étonnant que je n'ai pas moi-même raconté, qui est que quand le mal s'arrête, vous vous trouvez orphelin de la douleur. Ça mérite une explication, ça.
Ouais, il se passe en fait beaucoup de choses au-delà de la douleur, il se passe beaucoup de choses dans votre tête quand vous affrontez des douleurs extrêmes. Comme celle de l'algie vasculaire de la face. Et effectivement, je fais le parallèle, peut-être osé, je ne sais pas, je fais le parallèle dans le livre avec les femmes battues, qui n'arrivent pas à aller porter plainte contre leur mari alors qu'elles se prennent des coups tous les jours.
Il y a une dépendance à la douleur.
Parfois, il y a une dépendance comme ça, malsaine, qui s'installe. Et c'est vrai que, je sais que ça va être extrêmement bizarre ce que je vais dire, mais je pense que les gens qui en souffrent me comprendront. J'ai presque eu le sentiment, depuis que je n'ai plus mal, d'être dépossédé de quelque chose. Ça faisait partie de moi, même si c'était un enfer.
Ça occupait votre vie.
Enfin, absolument.
Ça remplissait votre vie.
Absolument.
À la fois, vous le dites très bien, l'avant, le pendant et l'après, qui en vérité constituent une séquence extrêmement longue.
Absolument.
Parce que l'avant, c'est l'angoisse que ça va venir à un moment.
C'est le pire. Je crois que c'est le pire. Pour moi, c'était le pire. C'était cette peur et je pense que je me suis déclenché des dizaines et des dizaines de crises inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, pour m'en débarrasser finalement, de me dire bon allez c'est bon.
Puisque ça doit venir, allez,
j'y vais, on y va, et après j'aurai une fenêtre de tir où je pourrai faire ce que j'ai à faire.
Alors le sentiment qui se dégage de votre histoire, Christophe Taureau, c'est que c'est une maladie sur laquelle il n'y a pas de consensus. Puisque vous allez de médecin en médecin, vous commencez par un pont américain. On pourrait penser au début de l'histoire que vous êtes bien tombé, vous êtes dans le pays où en général on développe ce genre de recherche, où sont les précurseurs de la médecine mondiale, et non. On dirait qu'il n'a pas du tout identifié, il ne met pas de nom là-dessus. Il prend ça pour quoi ? Pour une migraine ?
J'imagine, il a un gamin de 18 ans, français, qui arrive de nulle part et qui vient lui dire qu'effectivement il a des douleurs extrêmement violentes au crâne. Voilà,
et qui sans doute l'explique en plus...
Oui, je parlais pas encore très très bien anglais,
Mais c'est ça la vérité de cette histoire, parce que des tas de gens qui nous écoutent vont dire « mais j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil ».
Absolument, et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que un grand nombre de gens qui souffrent de cette maladie ont mis un temps incroyable à être diagnostiqués, c'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant des années sans que les médecins qu'ils ont rencontrés, les spécialistes, les professeurs, peu importe, mettent un nom et puissent ensuite comprendre comment ils vont essayer de les traiter. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs modes de traitement.
Il y a un consensus sur le diagnostic de cette pathologie, tout de même ?
Oui, on peut le dire, et sur le fait qu'elle est la sans doute la maladie la plus violente pour l'homme. Et c'est ça ce qui est très étonnant et très difficile à vivre, c'est que à partir du moment où vous êtes diagnostiqué et qu'on vous explique qu'en gros, et vous vivez l'enfer sur Terre, vous êtes la personne qui souffre le plus, et en même temps, vous n'avez pas le sentiment qu'on s'occupe vraiment de vous. Donc c'est complètement paradoxal, et il y a une sorte de sentiment d'abandon. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est aussi ce que j'ai compris et réalisé, même de façon plus nette, depuis que le livre est paru, parce que j'ai reçu pas mal de messages, évidemment.
De gens qui vivent la même chose.
Et qui ont vécu la même chose, ce sentiment vraiment d'abandon, et de ne pas être traité à la hauteur du mal.
Ce que vous appelez l'abandon, ça commence par... Encaisser votre douleur, c'est-à-dire vous dire qu'on croit que vous souffrez énormément. Ce que les médecins ne font pas en général, si j'ai bien compris. Ils ne commencent pas par vous dire « Oui, monsieur, je sais, je comprends, j'admets que ce que vous vivez est une douleur insupportable. » C'est la première qui le fait, c'est donc
absolument. Moi,
le docteur
en tout cas,
le chat.
Alors, je ne veux évidemment pas jeter l'opprobre sur tous les médecins.
Vous n'êtes pas le premier
à
raconter ça sur les médecins, hein, monsieur.
Mais... Les circonstances de mon parcours sont celles-ci, à savoir qu'effectivement, hormis le docteur des chiens, et c'est à la toute fin de mon parcours, entre guillemets, de malade, on ne m'a effectivement jamais dit ce que vous venez de dire, à savoir, effectivement, vous souffrez d'un mal absolument exceptionnel.
Jamais. De l'empathie, quoi.
Absolument, c'est vraiment moi ce qui m'a manqué.
Vous l'avez peut-être trouvé ça chez l'acupuncteur, en tout cas c'est ce que j'ai senti.
Oui, absolument.
Au fond, c'est tout ce que vous avez trouvé chez lui, j'ai bien l'impression, c'est de la bienveillance.
Absolument.
C'est quelqu'un qui ne vous soulage pas en vérité, mais qui vous écoute et qui est bienveillant avec vous, c'est ça?
Absolument, de la douceur, voilà, l'empathie c'est vraiment le terme exact. Et c'est aussi prendre le temps, écouter et... Il y a quand même il y a eu des périodes où il me faisait du bien. Moi, je sais que retourner chez lui était, même si je savais qu'il y avait toujours les conséquences de sa séance, parce que généralement j'avais 2-3 crises extrêmement violentes après, et puis après, ensuite, c'était
ça s'atténuait un
ouais,
poil.
C'était un tout petit peu mieux. Donc, aller le voir, c'était plutôt un moment
logique,
sympa.
Il touche au nerf.
Absolument.
Et que cette maladie a une origine. Oui. Nerveuse.
Absolument.
Vous êtes allé le voir pendant combien d'années, cet acupuncteur qui finalement a été une sorte de psychothérapeute pour vous?
Oui, je sais pas, je l'ai vu, je pense que je suis allé le voir, j'ai dû le voir une dizaine de fois sur 5-6 ans, à peu près.
Pourquoi?
Bah après, c'était compliqué parce que j'étais pas dans la région où il exerçait. Et puis, ce qui est aussi étrange dans mon parcours, c'est que parfois, j'essayais de trouver d'autres solutions, donc j'abandonnais un petit peu celles que j'avais. Voilà, j'essayais de faire ma petite tambouille. Alors oui, de temps en temps, je retournais le voir, mais voilà, c'était essayer de trouver la solution.
Alors il y a le magnétiseur comme autre solution.
Ça, j'y suis allé une fois.
Vous y êtes allé une fois, mais vous écrivez. Je n'ai pas retenu cette phrase, mais vous écrivez. J'aurais peut-être dû retourner le voir.
Oui, parce que. En même temps, il y a eu un petit, allez, on va dire qu'il y a eu un petit mieux. Oui, un petit mieux. Le problème, c'est que quand vous souffrez d'algie vasculaire de la face, vous voulez pas un petit mieux.
Ouais,
vous voulez que
ça s'arrête. Suffit pas, quoi.
Non, vous voulez que ça s'arrête.
Ouais.
Et il y a que l'Imiject, dans mon cas, qui vraiment arrêtait les crises. Voilà.
Alors, il y a donc cette séquence chez le psychanalyste. Vous auriez pu aller voir un psychiatre, vous auriez pu aller voir un psychologue, vous allez voir. Un psychanalyste. Alors j'ai compris que c'était quelque chose qui vous intéressait à titre intellectuel depuis tout petit, la psychanalyse. À quoi correspond ce rendez-vous? Est-ce que ça correspond à des gens qui autour de vous vous disent « Dis donc Christophe, tu crois pas que tu somatises un peu ?»
Alors c'est pas « Tu crois pas que tu somatises un peu ?» La démarche, elle est de se dire « Qu'est-ce qui fait qu'on souffre autant et est-ce que quelque part, inconsciemment, on ne se le provoque pas. Et si on se le provoquait, c'est qu'il y a des nœuds quelque part. Et il faut aller démêler ces nœuds. Et c'est vrai que je me suis posé la question, mes parents se sont posé la question. Parce que comme on était démunis, il fallait essayer de trouver n'importe quelle solution. Et se dire qu'on raconte son histoire, on essaie de trouver là où peut-être il y a quelques nœuds, trouver un moyen finalement de se détendre, d'être mieux dans ses baskets, c'était peut-être un moyen d'améliorer la situation, sans doute évidemment pas, ça a été le cas, de régler le problème, mais en tout cas, là aussi, d'apposer un petit pansement peut-être, de m'aider. Parce qu'évidemment, vous êtes pris dans une sorte de maelstrom psychologique quand vous êtes assommé par la douleur quasiment tous les jours, pendant de très longues périodes. Oui, vous ne savez plus où vous êtes. Donc finalement, le dialogue peut être un moyen quand même de vous aider, c'est une bouée.
La question de l'hospitalisation en psychiatrie s'est posée à un moment ?
Non, pas vraiment.
Parce qu'une crise tous les jours, qui donc dure quoi ? 2 heures, 3 heures,
ouais.
Séquence complète. Enfin, cette douleur s'ajoutant à la douleur de la veille et ainsi de suite, c'est très déstabilisant sur le plan psychique.
Oui, absolument. Ça ne s'est jamais posé, très honnêtement.
Parce que vous étiez jeune ?
Peut-être parce que j'étais jeune et peut-être parce que, comme on est jeune, on a une capacité à encaisser qui est hallucinante. Je n'en reviens pas, moi-même, d'avoir encaissé tout ce que j'ai encaissé et d'être toujours sur mes deux pattes.
Alors, ce qui conforte l'idée qu'il y a une part, psy, c'est vos stratégies de contournement de la douleur, c'est cette manière d'occuper votre esprit par autre chose. Il y a donc cette douche glacée qui a un effet aussi physique, oui. Physiologique. Il y a, penser à Pif Gadget, penser que Claudia Cardinal a fait coucher avec Jacques Chirac. Et puis la pratique du sexe, tout ça, c'est une manière de penser à autre chose. On raconte que c'est souvent une manière de gérer la douleur, ça, que de décaler son esprit, de décaler son psychisme sur autre chose, d'une certaine manière, de ne pas penser à elle. Ça marche un peu.
Ça marche un peu, mais effectivement, vous avez tout dit, Christophe. Il faut essayer de décaler son esprit. C'était un peu sortir mon esprit de ma tête pour que, justement, je ne me focalise pas sur ce que j'étais en train de vivre. Alors, c'est extrêmement difficile, évidemment, parce que la douleur étant terrible, mais c'est là aussi, c'était une sorte de petit pis-aller. C'est ce que j'essayais de faire pour essayer d'alléger mes douleurs.
Et il n'existe pas en France de centre anti-douleur dans les hôpitaux.
Oui.
Vous avez fréquenté ces services-là ?
Non.
Il n'existait pas à l'époque.
Si, si, sans doute, mais on ne sait pas, on n'a pas été amené à.
Mais il y a un moment, vous avez
non,
lâché
mais
l'affaire.
J'ai complètement lâché l'affaire. J'ai
vous
lâché
acceptiez
l'affaire.
De souffrir.
Je, très longtemps, je me suis dit que j'allais vivre avec ça jusqu'au restant de mes jours, sauf si je me balançais par la fenêtre.
Vous en parlez souvent de ça. Cette douleur est à ce point insupportable qu'à plusieurs reprises,
oui,
vous parlez de sauter par la fenêtre.
On l'appelle la migraine du suicide. Donc oui, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui ait souffert de ça qui n'y ait pas pensé. C'est une évidence, c'est obligé. C'est obligé.
Est-ce que vous savez si vous êtes nombreux en France ? J'ai dit plusieurs dizaines de milliers. J'ai lu des chiffres sur Internet qui sont très divergents, donc je ne me suis
alors,
pas mouillé.
C'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres, puisqu'il y a plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Après, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Voilà, moi je dis dans le livre, c'est une ville moyenne ou un très grand stade. Mmh. Voilà, en gros.
On en parle peu.
Et on en parle peu.
C'est pour ça voilà. Que vous avez écrit ce bouquin.
Notamment, oui. Et là-dessus, je suis vraiment très heureux parce que depuis qu'il est paru, j'ai reçu vraiment plein de messages. Et justement, vraiment sur cette thématique, merci d'en avoir parlé. Merci de parler de nous. Merci de dire qu'on existe. Merci de dire qu'on souffre et qu'on a besoin d'aide. Vraiment, mais j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Je n'en revenais pas.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.